BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles. Dans quelques minutes, on s'occupe de votre argent, nous allons parler PEA, on va parler pétrole et on va parler des femmes investisseuses. A tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous. Emmanuel Macron appelle à la désescalade après l'attaque de l'Iran contre Israël dans la nuit de samedi à dimanche. Le président de la République était l'invité ce matin d'Apolline de Malherbe sur BFM TV.
Et donc il nous faut à la fois être aux côtés d'Israël pour assurer sa protection au maximum, mais appeler à une limite pour éviter l'escalade. Il y a des frappes, si elles sont limitées à des intérêts militaires de manière très calibrée, qui pourraient mettre fin, si je puis dire, à ces allers-retours. Mais il faut éviter que, à chaque étape, ce soit un seuil qui soit franchi. Le risque, c'est celui de l'embrasement régional. Et avec l'entrée, si je puis dire, dans ce contexte, maintenant explicite, de l'Iran, c'est un risque d'escalade parce que c'est l'Iran directement comme puissance, mais c'est tout ce qu'on appelle ses proxys, c'est-à-dire le Hezbollah en Iran, les Houthis qui ont déjà fait plusieurs frappes dans toute la région, et puis les milices qui opèrent en Irak et en Syrie.
Les autres dirigeants du G7 et Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, craignent aussi l'embrasement du Moyen-Orient. Ils demandent à toutes les parties de la retenue. Mais Israël se prépare à la riposte contre l'Iran, c'est ce qu'a sous-entendu Benjamin Netanyahou. En parallèle, l'armée israélienne va poursuivre les combats contre le Hamas. Elle enverra dans les prochains jours 2 brigades dans la bande de Gaza. Dans ce contexte de conflit, Emmanuel Macron assure vouloir tout faire pour avoir une trêve olympique pendant les JO de Paris. À 100 jours de la cérémonie d'ouverture, le président de la République s'est également prononcé sur les menaces de grève pendant la quinzaine olympique. Il dit faire confiance aux syndicats et à leur esprit de responsabilité. Olaf Scholz est en Chine jusqu'à demain. Objectif pour le chancelier allemand, réchauffer les relations avec son premier partenaire commercial au moment où l'Union européenne accuse Pékin de concurrence déloyale. Olaf Scholz terminera sa visite par un entretien demain avec le président Xi Jinping. Ils évoqueront notamment la guerre en Ukraine, une source de tension entre les deux pays. La Chine qui voit d'ailleurs sa croissance marquer le pas. Selon un groupe d'experts interrogé par l'AFP, son PIB devrait progresser de 4,6% au premier trimestre. En cause, la crise de l'immobilier, une consommation atone et une activité économique au ralenti. Enfin, à partir d'aujourd'hui, le contrôle technique devient obligatoire pour tous les scooters, motos et voiturettes. Si le véhicule a été immatriculé avant le 1er janvier 2017, le premier contrôle sera réalisé au plus tard d'ici le 31 décembre. Son prix est fixé librement par les centres, mais il devrait dépasser les 50 euros.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours de 10h à midi sur BFM Business. Nous sommes à la radio, nous sommes à la télé, nous sommes sur le web et vous le savez, nous sommes également en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez à une autre heure du jour ou de la nuit. Nous sommes le lundi 15 avril. Au programme de cette émission, nous allons faire le point sur la situation au Moyen-Orient. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, investisseurs et épargnants individuels? On parlera du pétrole, évidemment. La guerre totale au Moyen-Orient semble avoir été classée sans suite par les marchés financiers pour l'instant, à l'heure où on se parle. Quel impact pour les indices boursiers de cette montée de tension entre Iran et Israël? Notre contrariant suisse Thomas Veillet sera avec nous d'ici 40 minutes pour en parler. Aujourd'hui, on va zoomer sur votre PEA, comment bien choisir vos actions, comment simplifier également votre transfert de PEA. C'est Julie Cohen de BFM Business et Mathias Bacchino de Trade Republic qui vous conseilleront d'ici une dizaine de minutes. Les femmes sont-elles meilleures investisseurs que les hommes? On va peut-être enfin avoir une explication de la surperformance significative des femmes dans l'investissement. On va décortiquer une découverte scientifique. pour s'aérer un petit peu l'esprit. À 10h30, votre dose d'économie quotidienne avec Nicolas Dose. Côté bourse, c'est Antoine Larigauderi depuis Euronext et nos deux traders qui se préparent pour suivre la séance du jour dans le match des traders. Le question-réponse du jour portera sur les résultats trimestriels qui débutent aux États-Unis. Quels sont les thèmes, les thématiques à surveiller dans cette publication? Félix Baron du Club des investisseurs indépendants nous dira à quoi vont prêter attention les traders, les opérateurs de marché et ce qu'on peut en retenir, nous, investisseurs particuliers. Et puis, on zoomera pour finir sur l'endettement immobilier des ménages. La cote d'alerte est-elle atteinte? Une note de la Banque de France s'est récemment penchée sur l'endettement immobilier des ménages. Quel est le problème? Frédéric Lorenzini vous répondra en fin d'émission. Au programme, il y a vous. Merci à tous pour votre soutien, pour vos nombreux messages ce week-end. Vous continuez à nous écrire sur LinkedIn, je suis connectée. Et vous pouvez aussi nous rejoindre par email. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr. Comme Mathieu qui nous demande si les ETF crypto sont accessibles sur le PEA ou le seront prochainement. Mathieu, on va vous répondre d'ici quelques minutes avec l'équipe des experts. Mais pour l'heure, nous partons du côté d'Euronext rejoindre Antoine Larigauderi pour faire le point sur la séance du CAC qui a démarré il y a 1h06.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
Votre rendez-vous avec eToro, plateforme de trading et d'investissement. Les traders intelligents choisissent les meilleurs outils.
Attendez. Je disais, on va passer une tête du côté du CAC qui est plutôt bien orienté ce matin. Antoine, racontez-nous.
Ouais. Oui, un sentiment d'accalmie sur les marchés. On le voit, un CAC 40 qui grimpe de 0,55%. On revient au-dessus des 8000 points, 8052 points, après avoir perdu quand même un petit peu plus d'1,2% sur la semaine écoulée. On a le sentiment quand même d'une certaine forme de soulagement, en tout cas de détente un petit peu dans un marché qui reste quand même très très préoccupé par les très vives tensions géopolitiques au Proche-Orient. Là, on a l'impression quand même qu'on souffle ce matin. D'ailleurs, les indicateurs de volatilité retombent un petit peu. Le VIX américain retombe sous les 17 points. Le DAX à Francfort plus 0,7% et même score à peu près pour l'Eurostoxx 50. Mais évidemment, on a des réactions un petit peu épidermiques. Par exemple, en début de séance, on avait un trio de tête sur le CAC 40 qui voulait tout dire. Airbus, ouais. Thales, Safran. Donc l'aéronautique et la défense qui étaient en tête. On avait Dassault Aviation aussi qui était en tête, des progressions sur le SBF 120. Les choses s'équilibrent un petit peu. Alors à noter que Stellantis signe la plus forte hausse du CAC 40 maintenant, plus 2,15% à 24,92 €. Et puis, il ne faut pas oublier ce qui se passe sur les marchés de taux. Parce qu'au milieu des tensions géopolitiques, on a tendance à mettre un petit peu de côté les considérations monétaires. Mais on a globalement une Fed qui, de plus en plus, et on l'a vu en fin de semaine dernière, est beaucoup moins pressée de baisser ses taux que prévu. Et ça, ça préoccupe un peu les investisseurs. Du coup, le 10 ans américain a fait un bond au-delà des 4,5%, alors que les taux européens, eux, restent plutôt stables, hein, vu que la BCE reste un petit peu droite dans ses bottes. Donc, du coup, ça donne du potentiel aux valeurs de croissance. Et on a des performances intéressante du côté du luxe, avec Hermès qui gagne 1,19%, 2297 €, LVMH plus 0,8 à 787,70 €. Donc globalement, de bonnes performances. À noter Edenred aussi qui prend 1,4% à 45,35, Schneider Electric plus 1,3%, 212,15 €. Puis à la baisse, quelques valeurs à noter. Alors Total Energy qui recule dans le sillage de la correction des prix du brut, vu que le baril de Brent de Mer du Nord est repassé légèrement sous les 90 $. Ça reste tendu, mais là aussi, sentiment d'accalmie. On est à 89,28 $. Total recul de 0,9% à 68,47 €. Notez Publicis qui signe la plus forte baisse du CAC, pour l'instant moins 1,16% à 102,30 €. Et puis quelques dossiers en difficulté qui se redressent ce matin. Atos plus 4,12% à 1,86 € et Alstom plus 2,33 € 14,71 €. Le CAC donc plus 0,49 € 8050 points et le Rouen dollar 0,6 $ 61 €. Lorraine.
Antoine, on vous retrouve dans une heure pour faire le point sur la séance en cours et puis on reparlera pétrole, or et puis valeur refuge dans ce contexte géopolitique particulièrement retendu depuis ce week-end. C'est l'heure du journal.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Le journal de votre argent et quelques actualités qui influent peut-être votre comportement d'investisseur et d'épargnant. Le pétrole, Antoine nous en parlait il y a quelques secondes. Ils ont grimpé les cours du pétrole de plus de 20% depuis le début de l'année. C'est plus 19% pour le contrat de juin sur le Brent de mer du Nord, tandis que celui de mai sur le WTI coté à New York a pris 22%. Antoine vous le disait à l'instant, je vous redonne les cours. Le Brent est passé légèrement au-dessus des $90 le baril, un niveau que le contrat londonien en principe référence internationale n'avait plus connu depuis octobre 2023, début des tensions entre Israël et le Hamas, soit en 6 mois. Ce matin, le pétrole est de Brent du Nord. Le Brent de mer du Nord est autour des $89,28. Et le baril brut léger américain WTI est actuellement autour de $84,36. Nous allons en reparler tout au long de cette émission. Le bal des publications du premier trimestre est ouvert à Wall Street. Les grandes banques américaines ont commencé à publier vendredi. Il y avait les bancaires avec JP Morgan qui a un petit peu déçu les investisseurs sur ses perspectives pour 2024. Le plus gros reste à venir. Certaines journées à venir seront très chargées, notamment jeudi 25 avril où pas moins de 10 entreprises chez nous du côté de l'Atlantique, côté CAC 40, publieront leurs chiffres d'affaires ou l'intégralité de leurs comptes du premier trimestre, dont Airbus, Sanofi ou Schneider Electric. Calendrier à retrouver sur notre site bfmbusiness.com. Et bien sûr, nous allons décrypter tous ces résultats au long de la semaine. Ce sera aussi le cas dans BFM Bourse, l'équipe de Guillaume Sommerer et Julie Cohen. Un petit mot qui concerne nos finances personnelles, peut-être bientôt une fiche de paie simplifiée. Les salariés français vont-ils enfin comprendre quelque chose à leur fiche de salaire? Il y a un projet de loi de simplification qui sera bientôt présenté en Conseil des ministres, qui prévoit notamment de ne pas indiquer en détail sur les bulletins de salaire les prélèvements sociaux réalisés. 5 lois ou décrets ont déjà eu cette ambition au cours du quart de siècle dernier. Le bulletin de salaire pourrait passer de 55 lignes, 55, à une trentaine. Voilà, c'est une version très simplifiée qui pourrait être progressivement déployée jusqu'en 2027. Il faut laisser un petit peu de temps visiblement aux éditeurs logiciels de s'adapter. Et les employeurs devront continuer à s'assurer de la mise à disposition pour les salariés des informations nécessaires à la reconstitution des montants qui figurent sur son bulletin, sur leur bulletin. Article de Timothée Talbi à retrouver également sur notre site bfmbusiness.com. Un mot de vocabulaire, si je puis dire. Vous le savez, on a beaucoup entendu d'acronymes en Europe pour identifier en bourse des valeurs comparables à ces fameux 7 magnifiques ou 7 mercenaires de Wall Street. Cette expression, vous savez, qui renvoie au groupe de Big Tech qui ont porté à elle seule ou presque l'ensemble des indices américains l'an passé. Ces 7 valeurs, vous les connaissez, ce sont Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta et Apple. Eh bien, les banques sont au travail pour essayer d'identifier des groupes de valeurs européennes de qualité comparable. Alors, on a parlé des granolas pour GSK, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oréal et LVMH, AstraZeneca et SAP ou encore Sanofi, ça c'était les granolas. Liste qui a été ressortie depuis 2020 en mois de février. Voilà, pour marquer leur performance. Mais Goldman Sachs n'est pas la seule banque à essayer de trouver un acronyme qui marche pour nous en Europe. Citi a choisi le terme les Super Seven avec Novo Nordisk, SAP, Richemont, LVMH, mais aussi dans l'automobile Ferrari, Schneider Electric ou encore ASML. Et puis Deutsche Bank a isolé les fameux Fabulous Five, c'est-à-dire L'Oréal, ASML, LVMH, Novo Nordisk et le géant suisse Nestlé. Puis la Société Générale a de son côté les 7 merveilles. Vous voyez, chaque banque a son acronyme pour identifier les valeurs européennes qui pourraient être en compétition avec les 7 magnifiques américains. Article de Julien Marion également à retrouver sur notre site web. Dans moins de 10 minutes, on vous répond, chers auditeurs, auditrices. On a Mehdi qui nous a demandé comment investir dans son PEA. Il ne sait pas sur quelle action investir. On vous répond, Mehdi, dans 10 minutes. Ainsi que Mathieu qui nous demande si les ETF crypto seront bientôt accessibles depuis notre PEA. Avant ça, on passe une tête chez nos traders pour savoir quoi faire aujourd'hui sur les marchés.
Tout pour investir, le match des traders.
Et ce matin, nous avons Jean-Louis Cussac avec nous de chez Perceval Finance Conseil et puis Stéphane Sauduteil de technibourse.com. Stéphane, nous allons commencer avec vous. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Le CAC 40 en légère forme ce matin. Dites-nous, Stéphane, pour démarrer, à quoi va ressembler votre journée et les conseils que vous pouvez donner à ceux et celles qui nous écoutent et qui nous suivent?
Mais écoutez, on commence bien mieux la semaine que l'on l'a fini, hein, puisqu'on était légèrement sous les 8000 points vendredi soir. Alors on reste toujours dans cette phase de correction technique baissière qu'on décrivait semaine après semaine avec Jean-Louis. Tant qu'on reste en dessous des 8130, 8145 points, on reste toujours un petit peu vulnérable. J'aurais préféré hein, qu'on aille chercher un petit peu plus bas pour avoir une correction technique un peu plus équilibrée. Là, on a corrigé un tout petit peu plus, de 25% de la phase de progression depuis mi-janvier. Ça aurait été peut-être un petit peu plus sympathique d'aller chercher un peu plus bas, d'aller chercher 7900 points, voire 7800, 7855 points pour peut-être prendre des appuis plus sérieux, pour rebondir de façon plus péremptoire ultérieurement. Donc là, on reste quand même, je dirais, un petit peu dans l'expectative. Donc tant qu'on reste sous 8130, 8145, je pense qu'il faut privilégier toujours le biais baissier, chercher plutôt à vendre à l'approche, on pourrait dire au sens large, entre 8075 et 8130 points, pour viser peut-être de nouveau au moins un retour vers les 8000 points. Si on s'enfonce sous les 8000 points et surtout sous le point bas de la semaine dernière, 7975 points, là effectivement je pense qu'on aura en ligne de mire les 7900, voire un petit peu plus bas. Voilà, je pense pas que dans l'immédiat on ait une chance de rallier vraiment le point haut autour des 8230, 8250 points. C'est vrai qu'on a un début de publication des banquières américaines qui est pas super joli. Donc aujourd'hui on aura Goldman Sachs, demain Bank of America et Morgan Stanley. Donc il n'y a pas de raison que ce soit bien meilleur que les valeurs de vendredi. Donc je m'attends plutôt à une poursuite peut-être un petit peu de la baisse des marchés américains et par effet de contagion les marchés français, même si on n'est pas du tout dans la même dynamique de politique monétaire. À noter aussi bien sûr l'or, hein, qui s'est quand même envolé ces dernières semaines. On a touché 2432 dollars malgré, hein, la faiblesse de l'euro dollar avec la Fed la semaine dernière, hein, qui a fait plier un petit peu l'euro-dollar. On est passé sous 1,0720, donc ça c'est moins bien. On pourrait peut-être aller chercher les 1,0450, 1,05, mais on voit que ça n'a pas vraiment d'impact, hein, sur l'or, qui est sensible bien sûr aux tensions géopolitiques tant en Ukraine qu'au Moyen-Orient. Donc voilà, début de semaine, je dirais, assez tranquille peut-être sur le CAC 40, où on devrait évoluer, je pense, aujourd'hui entre 8020 au plus bas et 8075 au plus haut.
Merci Stéphane. Jean-Louis, semaine tranquille sur le CAC. Est-ce que vous surveillez les mêmes niveaux techniques en ce lundi 10h17?
Alors, tranquille, je ne sais pas si la semaine le sera, mais la journée peut-être, parce que là, on va être en situation d'attente sur ce qui va se passer, évidemment, au Moyen-Orient. Le risque géopolitique, il a quand même franchi un nouveau palier. Alors, il y avait plein de petites alertes, là, la hausse de l'or, du pétrole, du dollar, la volatilité implicite qui est montée sur les marchés. Bon, maintenant, ce risque géopolitique, il était largement pris en compte sur l'or, sur le pétrole, mais pas sur les indices. Et regardez, ce matin, les indices se portent quand même très bien, parce que, bon, ben, tout l'enjeu, il est dans la communication, et jusqu'à présent, chaque mot est pesé, tout le monde veut éviter l'embrasement, certainement, évidemment, dans toute la zone. Alors, sur le plan trading, si vous voulez, l'idée d'acheter, ben, elle n'est pas remise en cause, alors que les menaces sont fortes. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une manière de trader qui va changer. C'est la manière qui change, où on est très protégé, on va être méfiant, on va faire, on va plus avoir une recherche de scalping, c'est-à-dire des opérations assez courtes dans le temps, sur des écarts faibles. Moi, ce matin, j'ai pas fait grand-chose. J'en ai fait un, bon, voilà. Et l'idée, si vous voulez, d'acheter jusqu'à les plus bas de vendredi, 7000. Alors, faut pas acheter trop bas non plus, parce que ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Mmh. On va dire que jusqu'à 8000, 7980, c'est une zone d'achat sur des replis. On peut encore acheter des options si c'est pas fait, parce que la vol implicite reste quand même, malgré tout, relativement modeste. Hein, mmh. On est à 13, 14. Et tant que ces tensions vont rester, c'est le dollar qui profite en fait de la situation. Le dollar reste extrêmement ferme sur les marchés.
Merci beaucoup Jean-Louis et Stéphane pour cette double lecture. Évidemment, on va monitorer, on va suivre ce qui se passe sur nos marchés toute la semaine et voir voilà, si la macro arrive à reprendre le pas. Et évidemment, ces décryptages sont à suivre au quotidien dans BFM Bourse à partir de 10h30. Pour l'heure, c'est le moment de débattre des actualités qui ont un impact sur vous, investisseurs particuliers.
Tout pour investir. Tout pour votre argent.
Et l'équipe du lundi en plateau avec nous, Julie Cohen. Bonjour Julie.
Bonjour Lorraine.
Aux manettes de BFM Bourse, justement, tous les jours. Ainsi que Caroline Ménager qui est avec nous. Bonjour Caroline.
Bonjour Lorraine.
Co-fondatrice de PixP. Et c'est lundi, Mathias Bacchino est avec nous de l'équipe Trade Republic, mais à distance. Hello Mathias.
Bonjour, bonjour à tous.
Ça sent les vacances scolaires, Mathias. Hein. Le monde est à feu et à sang au Moyen-Orient, mais on arrive à se connecter pour pouvoir faire cette émission dans des conditions un petit peu dégradées, chers auditeurs, auditrices. Si vous nous suivez, nous sommes dans un autre studio. Mais voilà, l'important, c'est que l'information soit traitée. On va commencer non pas sur de la géopolitique, parce que nous allons longtemps y revenir dans la suite de l'émission, mais simplement sur notre PEA, sur notre plan épargne action, car vous êtes nombreux et nombreuses à nous écrire pour nous demander nos bons conseils. J'en profite pour saluer mes qui aimerait investir dans un PEA et qui n'a pas trop d'idées sur quelle action investir, peut-être dans une logique de stock picking. Mathias, un petit peu de coaching si vous voulez bien pour Mehdi. Qu'est-ce qu'on peut dire à Mehdi et aux gens qui sont dans sa situation quand on a envie de miser sur la bourse, d'utiliser ce formidable outil qu'est le PEA, mais qu'on ne sait pas par où commencer?
D'abord, ce qu'on peut lui dire, c'est qu'effectivement, il fait le bon choix en utilisant le PEA, puisque pour investir à long terme, le PEA est un bon outil. Ça nous donne déjà un premier indicateur de comment on doit sélectionner une action pour un PEA. C'est que le PEA étant un outil d'investissement à long terme, on va choisir une action dont les performances à long terme sont anticipées comme étant positives. Pour ça, on va regarder d'abord le secteur d'activité dans lequel est présent l'action. Est-ce que c'est un secteur qui est porteur dans les années qui viennent? On va ensuite regarder les capacités financières de l'entreprise. Est-ce que son chiffre d'affaires est en croissance? Est-ce que ses revenus également sont est-ce que ses profits, pardon, sont en croissance également? Et est-ce qu'éventuellement elle verse un dividende qui est stable dans le temps? Ensuite, on va regarder à long terme un troisième critère, à mon sens, qui est le plus intéressant quand on fait du stock picking, c'est la capacité qu'a cette action à garder un avantage compétitif sur son marché. C'est-à-dire, puisqu'on décide de ne pas acheter tout un secteur en privilégiant le stock picking, on vient acheter une seule action, eh bien, on va essayer d'aller trouver celle qui a le plus fort pricing power, par exemple, dans son secteur. Enfin, dans une perspective de long terme, on peut s'intéresser aussi à l'analyse technique, à l'analyse graphique, qui nous permettra d'identifier sur ces actions à fort potentiel les points d'entrée. En général, on dit souvent que c'est sur repli qu'il faut acheter une action d'une bonne manière. Et bien, quand on fait du stock picking, être capable d'identifier les supports, ça peut être une bonne idée. Voilà. Et enfin, un petit conseil plus personnel, si vous débutez dans le stock picking, peut-être intéressez-vous d'abord aux grandes capitalisations avant d'aller sur les plus petites valeurs qui, elles, ont tendance à être plus volatiles.
Voilà, le stock picking. Le stock picking, pourquoi pas, en fait, vous nous dites. Alors, c'est du travail quand même, le stock picking, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire s'intéresser à autant d'entreprises, à autant d'histoires d'entreprises et à autant d'actualités d'entreprises. Caroline, votre regard là-dessus?
Alors, mon regard, qui est un regard peut-être un peu plus conservateur, c'est qu'effectivement, au-delà du stock picking, il est tout à fait possible d'investir pour des gens qui ont moins envie d'y mettre le nez sur des ETF, ce qui permet à la fois de diversifier significativement le risque, d'investir sur des géographies différentes, même si on reste toujours dans le cadre de l'Europe, sur des actions différentes, dans des secteurs qui sont différents. Donc moi, c'est effectivement une recommandation que je porterai, avec un petit plus qui vient un peu de mon historique PixP, qui est de dire essayer d'ouvrir un PEA le plus tôt possible pour bénéficier de l'antériorité fiscale, dès 18 ans, si vous le pouvez, sur des petites sommes et régulièrement. Et je pense que ça, c'est vraiment une clé très importante, c'est la régularité de l'investissement. Il vaut mieux investir des petites sommes tous les mois, toutes les semaines, en fonction de ce qu'on peut faire, que de faire des pics réguliers.
C'est-à-dire qu'on ouvre un PEA à ses enfants, si on a des enfants, c'est ce que vous nous dites. Alors, à partir de 18 ans, mais effectivement, c'est une recommandation, ouvrez un PEA. Aujourd'hui, c'est quand même un peu triste de voir que seuls 15% des femmes ont un PEA en France, 23% des hommes, c'est pas énorme.
Hein.
C'est pas énorme, non. Mais moi, j'aimerais bien que les femmes rattrapent les hommes et n'aient pas peur d'investir en bourse aussi. Donc, ouvrez des PEA, hommes et femmes.
Le PEA, ça fait peur parce que c'est la bourse, Julie. Comment on rassure les gens sur la bourse?
Quand c'est de la bourse, effectivement, il y a plusieurs astuces à prendre en compte pour le PEA. Donc, il y a le stop picking, effectivement, mais il faut pouvoir avoir le nez dedans toute la journée, être un expert, suivre et surtout se renseigner beaucoup sur les valeurs et les titres. Il n'y a pas que ça. Je pense que Mathias en a parlé, mais j'entendais pas forcément bien. L'investissement progressif, hein, le fameux DCA, et donc ça permet de mettre des petites sommes régulièrement. Et ça permet aussi de lisser la prise de risque. Évidemment, la diversification, hein, on le rappelle jamais assez, mais les différentes classes d'actifs, les secteurs, la géographie, ça c'est important pour structurer son enveloppe PEA. Et puis évidemment avoir cette vision long terme, on est sur un marché action qui performe sur le long terme, donc l'ouvrir dès 18 ans, c'est très bien, puis après, on le laisse un petit peu évoluer. Et puis, un dernier conseil peut-être, effectivement, ce qui est bien aussi, c'est quand même d'avoir un regard sur celui-ci et d'adapter un petit peu le suivi que vous avez sur son PEA par rapport à l'approche, aux évolutions que vous avez par rapport à vos objectifs au portefeuille. Le surveiller et l'adapter régulièrement, c'est important.
Justement, Mathias, peut-être un mot d'hygiène financière. Son PEA, est-ce qu'on le regarde tous les jours, même si on est en stock picking? Est-ce que ça, c'est un conseil qu'on peut donner? Ou au contraire, il y a une temporalité, un calendrier un petit peu plus ventilé à avoir?
Comme on le disait, le PEA, c'est avant tout un véhicule d'investissement à long terme, puisque c'est au-delà de 5 ans d'existence du PEA qu'on commence à avoir une fiscalité plus faible. Donc, quand on est sur un investissement long terme, le rythme que l'on peut donner, c'est peut-être un rythme mensuel, c'est-à-dire de se donner une fois par mois un rendez-vous avec soi-même, pour revoir son allocation au sein de son PEA. Est-ce que je suis toujours en lien avec mes objectifs d'investissement ou bien est-ce que j'ai dévié? Typiquement, celles et ceux qui avaient acheté du LVMH il y a un certain temps ont pu voir LVMH prendre une part trop importante dans leur PEA et donc ont décidé à ce moment-là de faire un rebalancement. Si on regarde tous les jours, on va donner tout le chemin pour ses émotions, pour que ces émotions nous fassent faire n'importe quoi. Donc, on ne peut pas dire tous les jours, non. On va regarder peut-être une fois par mois un PEA.
Mathias, une petite question d'un de nos auditeurs, Mathieu, qui nous a écrit la semaine dernière, qui nous demandait si, à notre avis, les ETF crypto allaient peut-être bientôt être accessibles depuis notre PEA. Est-ce que vous avez des infos top secret pour nous?
Alors, la réponse est non. C'est-à-dire que les ETF crypto, aujourd'hui, ne sont accessibles qu'aux États-Unis. L'autorisation qui leur a été donnée n'a été donnée que par les autorités américaines et pas par les autorités européennes. Et en Europe, il y a une loi qui va, pour l'instant, empêcher l'apparition de ces ETF crypto. Il y a des certificats, ce qu'on appelle des ETC, mais pas des ETF. Et donc, voilà, ça peut poser problème à certains. Néanmoins, sur un PEA, ça ne risque pas d'arriver puisque le PEA est réservé aux entreprises et aux entreprises européennes, établies en Europe, pour être plus précis.
Bon, on parle de PEA. On aime bien parler de finances personnelles et donc d'épargne salariale. Caroline, vous avez un lien tout trouvé entre le PEA et l'épargne salariale. Racontez-nous en quelques minutes.
Alors, en quelques minutes, effectivement, l'épargne salariale va évoluer. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les salariés. Aujourd'hui, l'épargne salariale, c'est 12,5 millions de salariés qui sont concernés. Alors, quand on est dans une grande entreprise, plus de 500 personnes, globalement, on a de bonnes chances d'être concernés. C'est 80% des gens. En revanche, sur les petites entreprises de moins de 50 personnes, c'est moins de 19% des salariés qui bénéficient de l'épargne salariale. Alors, je rappelle juste l'épargne salariale en deux mots. C'est l'intéressement. Donc, c'est un intéressement sur les objectifs qui est facultatif, ou c'est la participation sur les bénéfices qui est obligatoire au-dessus de 50 salariés. Donc, à partir de 2025, bonne nouvelle pour tous les gens qui sont dans les entreprises de moins de 50 salariés, un mécanisme d'épargne salariale devra être mis en place si l'entreprise réalise plus de 1% de bénéfices nets par rapport à son chiffre d'affaires. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et une autre bonne nouvelle sur le front de la transition écologique, c'est que l'épargne salariale devra être investie à minima dans un fonds labellisé ISR ou œuvrant pour la transition écologique. Donc voilà, donc deux bonnes nouvelles. Et à titre personnel, je trouve ça effectivement très très bien que les salariés puissent être bénéficier en tout cas de l'épargne salariale.
Mathias, on avait prévu parler femmes et investissement. Vous aviez une étude scientifique à nous dévoiler en 30 secondes. Expliquez-nous pourquoi les femmes sont meilleures que les hommes en investissement, s'il vous plaît.
Bien, on l'a démontré chez Trade Republic, elle génère 2% de rendement annuel chaque année. Ça fait 2 ans de suite qu'on le mesure donc sur des millions de personnes en Europe. Et là, on a cette étude du professeur Vinod Menon, donc à Stanford aux États-Unis, qui a démontré que dans les processus d'activation neuronaux, les hommes et les femmes ont des comportements statistiquement très différents, des réactions, très différents, en particulier dans les processus auto-référentiel, c'est-à-dire dans les processus où on est au centre du jeu. Et là, dans l'apprentissage par renforcement, dans les expériences subjectives de plaisir et surtout dans la sensibilité à la récompense, les hommes et les femmes réagissent différemment. Cela explique peut-être en partie le fait que systématiquement, les femmes investissent mieux que les hommes. En tout cas, un sujet passionnant à creuser.
Voilà, on investit mieux, mais on est moins nombreuses à investir, n'est-ce pas, mesdames? Nous sommes un petit peu en retard, je vous présente mes excuses, parce que nous sommes un peu chamboulés techniquement. Nous avions plein d'autres sujets de prévu, notamment concernant le PEA. Julie va nous apprendre comment transférer son PEA, mais vous nous ferez ça la semaine prochaine, Julie.
Avec grand plaisir.
Parce que le PEA, c'est un sujet qui vous est cher, et on a besoin de faire plus d'éducation sur ce magnifique outil d'investissement qui permet, on le rappelle, d'investir dans les entreprises, et a priori, notamment notre CAC 40, il y a peu de chances que 40 entreprises... les plus grosses et les plus fortes de France fassent faillite en même temps. Pour ceux qui ont peur d'investir dans la bourse, c'est bien de le rappeler. Voilà, vous restez avec nous. Je vous dis merci à notre tour de table. Merci Mathias Bacchino de Trade Republic à distance avec nous. Merci Caroline Ménager d'avoir été avec nous. Et chère Julie Cohen qu'on retrouve aux manettes de BFM Bourse et à l'antenne aussi de BFM Bourse dès 15h30 tout à l'heure avec ce calendrier des publications trimestrielles qui démarre et qui va être dense. Notamment jeudi, la journée côté CAC 40 va être touffue comme on dit. À tout de suite après la pub, Nicolas Dose est de retour pour parler et bien faire le point sur le choc énergétique qui nous menace peut-être compte tenu de la situation au Moyen-Orient. Restez avec nous, à tout de suite.
Tout pour investir, Dose d'économie.
On s'occupe de vos finances personnelles, on s'occupe de vous donner les infos économiques dans le cadre de ce direct. Nicolas Dose est de nouveau parmi nous. Bonjour cher Nicolas.
Bonjour.
Il est temps de faire le point sur les effets économiques de l'attaque iranienne contre Israël qui sont déjà quelque part visibles. La première conséquence évidemment concerne le pétrole. On est passé au-dessus des $90 le baril. Là on est un tout petit peu en dessous.
Voilà, c'est 89. Ça se stabilise, mais on voit bien qu'il y a eu en fait un effet immédiat sur le baril de pétrole à partir du moment où il y avait cette angoisse d'une attaque iranienne. Et là on est repassé au-dessus des $90 le baril. On a même touché les $92 le baril. Là maintenant, certains imaginent qu'on pourra aller vers les $100 le baril, parce qu'il y a un vrai risque. Mmh. Autant pronostiquer un chiffre précis pour le baril de pétrole, comme beaucoup s'amusent à le faire très régulièrement, ça me semble un peu hasardeux, autant là, on a effectivement un vrai risque. On a eu aussi un phénomène sur le gaz naturel liquéfié. Mmh. L'indice de référence à Rotterdam a pris tout de même 7%. C'était vendredi. Alors jusqu'ici, les tensions au Proche-Orient n'avaient pas eu d'effet notable sur les prix de l'énergie. Mais d'ailleurs, c'est même presque une non-réaction des marchés qui a un peu surpris certains experts qui justement se hasardaient à anticiper une forte hausse des prix du pétrole notamment. Mais on avait toujours dit que l'élément déterminant, c'était la position de l'Iran. À partir du moment où l'Iran rentre dans l'histoire, l'histoire n'est plus la même. Et c'est bien ce qui se produit depuis maintenant quelques heures.
L'Iran qui change d'attitude, qui change de stratégie. Et ça a des impacts sur ce qu'on peut appeler un choc énergétique. Le risque d'un recul brutal de l'offre, c'est ça qui va tirer les prix à la hausse.
C'est exactement le risque. Le risque, alors je dis bien le risque parce qu'on n'y est pas. Ouais. On n'y est pas. Mais on a le risque d'un choc d'offres. Dans la mesure où le trafic maritime est déjà très pénalisé au niveau de la mer Rouge à cause des rebelles du Yémen et que les Iraniens ont clairement menacé de bloquer, de fermer le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, vous avez 20% de la consommation mondiale de pétrole quotidienne qui passe par là, et vous avez un quart de la consommation mondiale de gaz naturel liquéfié qui passe par là. Vous fermez le détroit d'Hormuz, vous avez l'assurance d'avoir un choc d'offres. Et puis il y a aussi le fait que parmi les productions israéliennes, il y a des productions de gaz, et qu'on se rend compte qu'avec les événements récents, elles pourraient se retrouver fragilisées. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut y voir une sorte de prémisse ou de signal d'alerte, mais les autorités iraniennes ont saisi un porte-conteneur italo-suisse de l'armateur MSC. C'était samedi, et menace désormais de fermer le détroit d'Hormuz. Ça veut dire que là, si on fait ça, on a un choc d'offres avéré, et en face, on a une demande de pétrole qui est un peu moins dynamique en termes de progression qu'en 2023, puisque la progression elle sera inférieure à 1,5 million de barils le jour, mais on est quand même sur une demande qui augmente de 1,5 million de barils le jour, d'après les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie. Et puis on peut ajouter un dernier élément dans l'équation, qui est un mauvais hasard de calendrier, mais c'est que ce risque de choc d'offre arrive au moment de la driving season aux États-Unis. C'est toute cette période de jours fériés, de période de vacances, où les Américains roulent très sensiblement davantage, et donc consomment davantage de carburant. Et enfin, on pourrait dire que ce chiffre de 90$, c'est un chiffre qui est plutôt la cible souhaitée par l'OPEP. Donc c'est un chiffre dans lequel les principaux pays producteurs se retrouvent plutôt aujourd'hui. Mais voilà, le détroit d'Hormuz n'est pas fermé. Du jour où il est fermé, là, la donne change radicalement.
Voilà, l'Iran peut fermer à tout moment le détroit d'Hormuz. C'est la menace formulée par un des hauts gradés des gardiens de la Révolution.
Absolument, oui.
Un mot, si on revient à nous, pardon pour cet égoïsme économique, si on revient à nous, petits Français, dans notre petit pays, est-ce que les prix à la pompe vont suivre si les prix du pétrole flambent? Rappelez-nous
absolument
le mécanisme.
Le mécanisme de transmission met à peu près une quinzaine de jours, et on a coutume de dire que, alors, il faut que la tendance soit lourde pour quand même qu'on voit réellement les prix modifiés sensiblement à la pompe. Généralement, quand vous mettez $1 de plus sur le baril, de manière durable, vous avez 1 centime de plus à la pompe, avec un délai de transmission qui est inférieur à 1 mois, qui est plutôt de la quinzaine de jours. Donc ça veut dire que derrière ça, vous avez une hausse des prix de l'énergie. On sait à quel point notre économie est ultra sensible au prix de l'énergie, parce que nous sommes totalement dépendants de l'étranger, en tout cas pour ce qui est des énergies fossiles, que ce soit le gaz ou le pétrole. Donc premier effet très négatif sur le pouvoir d'achat est évident. Mais deuxième effet très négatif, moins palpable pour l'opinion, c'est que si on a un choc d'offres, sur les prix de l'énergie, et donc un choc énergétique, on peut se retrouver avec un phénomène qui réduirait à néant les tentatives de politique de lutte contre l'inflation, voire, si ça s'installait dans la durée, remettre en cause les espoirs d'une promesse baisse de taux de la part de la BCE à compter du début du mois de juin. Tout le monde maintenant a inscrit dans son esprit l'idée que le 6 juin, c'était le coup d'envoi du desserrement de la politique monétaire en Europe. Si le choc énergétique se confirme, à ce moment-là, on pourra avoir un pic d'inflation qui ferait que la BCE ne serait plus en capacité, même si l'arme des taux n'est pas forcément la plus adéquate pour lutter contre une pénurie de barils de pétrole ou une pénurie de mètres cubes de gaz. La BCE, compte tenu de son mandat, pourrait se retrouver dans l'obligation de renoncer à son desserrement de politique monétaire.
On est passé, comme dirait notre confrère Anthony Bondin, de zone bourse la semaine dernière, de l'ambiance, l'inflation n'est plus un problème et les taux d'intérêt vont baisser, à, au secours, l'inflation revient et l'assouplissement monétaire n'est pas, on tenait pour acquis, ne l'est pas.
Ouais.
Très bien résumé. Merci beaucoup, Nicolas. À retrouver en podcast et en replay d'ici quelques secondes. Cette séquence est également disponible sur YouTube si vous voulez participer au débat, à la discussion. Voilà, on monitore au fil des minutes ce qui se passe et comment ça nous concerne en tant qu'investisseurs particuliers dans cette émission. Merci, Nicolas. À demain pour une autre dose d'économie. À suivre, on va s'occuper de décrypter le sentiment de marché, comprendre comment réfléchir aussi rationnellement que possible en ces périodes compliquées, ce qu'on doit faire en tant qu'investisseur particulier avec Alain Pitous dans quelques secondes. À tout de suite.
Tout pour investir, les marchés et vous.
Les marchés et vous et nous, cher Alain, Alain Pitous, analyste, senior advisor ESG, pardon, avec nous à distance. Bonjour, cher Alain.
Bonjour.
On a prévu de parler de rotation sectorielle avec vous. On s'est mis d'accord sur ce sujet avant le week-end, si je puis dire. Mais nous allons évidemment parler de ce qui se passe, vers quoi on se tourne en tant qu'investisseur particulier. On va parler des secteurs en croissance. Mais d'abord, un petit peu votre éclairage pour comprendre. L'inflation ne baisse pas. Il y a un rebond du pétrole, même si ça s'est un tout petit peu calmé depuis cette nuit. Des anticipations de baisse de taux moins fortes. Et bien sûr, on en parle depuis ce matin, depuis votre réveil, chers auditeurs, auditrices, des tensions géopolitiques. Les marchés deviennent incertains. Nous, investisseurs particuliers, de plus en plus myopes. Quels sont qu'est-ce que je peux dire, votre éclairage. Quel est votre éclairage? Qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte?
Voilà, moi, je le dis depuis maintenant plusieurs semaines, je pense que pour ceux qui étaient pleinement investis, moi, je recommande de prendre quelques bénéfices. Je dis bien quelques bénéfices, hein, je ne dis pas de sortir du marché. Et pour ceux qui sont très investis en cash et qui ont, pour une partie, raté ce mouvement de hausse depuis le mois d'octobre, je dirais qu'il faut attendre patiemment le recul du marché, parce que je pense qu'il va y avoir à un moment donné un retracement. J'entendais vos intervenants traders tout à l'heure qui s'étonnent que ça ne baisse pas plus. Voilà, je pense que c'est pas mal d'attendre un petit peu un recul de marché.
Voilà. On attend patiemment, si possible, un recul du marché. Bon, est-ce que, plutôt que de prendre des bénéfices, la solution, ça ne serait pas de rester investi, mais simplement de procéder à des arbitrages sectoriels, on y vient, et d'arbitrer des valeurs de croissance pour renforcer des values? Est-ce que les values qui étaient justement réputées pour mieux se comporter dans des contextes de marché plus difficiles, est-ce que c'est toujours vrai? Et avant cela, Alain, est-ce que vous pouvez nous rappeler les principales caractéristiques de ce qu'on appelle justement les gestions value et les gestions dites de croissance? Un petit peu d'éducation financière.
Voilà. Alors, pour la croissance, c'est assez simple, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, pour les investisseurs qui ont une stratégie growth, comme on dit en bon français, une stratégie de croissance, bah, l'idée, c'est de privilégier des entreprises qui ont une croissance visible plus rapide. Alors, ça peut être en termes de revenus, en flux de trésorerie, et toujours, et bien souvent en termes de bénéfices, et qui ont donc cette croissance plus forte que le marché. Et les investisseurs qui ont ce type de choix, hein, d'aller sur des gestions croissance, estiment que ça va être une croissance plus rapide sur longue durée, et donc ça va se retrouver à un moment donné dans le cours de bourse. Donc clairement, des entreprises qui sont bien souvent leaders dans leur secteur, et qui ont bien souvent aussi des ratios cours-bénéfices supérieurs, parce que généralement, quand vous pointez une valeur de croissance, vous n'êtes pas le seul, et ça se retrouve dans le cours de bourse. Après, donc, on a des caractéristiques assez communes, hein, c'est une valorisation plus élevée que la moyenne, des niveaux de croissance plus robustes et des bénéfices généralement assez élevés. Alors après, il y a deux choses à avoir à l'esprit, hein, c'est que ce sont des entreprises qui sont souvent plus volatiles que la moyenne du marché, parce que les anticipations peuvent changer un petit peu, donc dès que vous changez, ça peut se retrouver directement dans le cours de bourse. Et puis des ratios cours-bénéfices qui sont souvent plus élevés, et bien souvent également une sensibilité au taux d'intérêt un peu plus forte, parce que on valorise ces croissances sur longue durée.
Alain, on comprend que dans une période incertaine, une période d'incertitude, la gestion dite croissance, elle est plus volatile et elle est probablement donc plus risquée que la gestion value, donc elle est plus défensive. Est-ce que c'est toujours vrai?
Alors, ça a été la gestion value qui cherche donc des entreprises décotées, hein, c'est-à-dire l'idée c'est d'un peu trouver des entreprises qui valent pas très cher et qui ont des perspectives prometteuses et qui se sont retrouvées à un moment donné sanctionnées pour une raison ou pour une autre. Alors ça peut être vraiment en plein de raisons. Il y a tout un tas de raisons qui peuvent faire qu'une entreprise subit un contre-choc à un moment donné. Et donc c'est une gestion qu'on avait vraiment beaucoup privilégié dans les années 2000, au début des années 2000, après la période d'explosion de la bulle Internet. Et donc, c'est vrai que c'était des valeurs qui étaient souvent assez défensives. Alors, qu'est-ce qu'elles ont comme caractéristiques? Elles ont souvent des ratios cours sur bénéfice, à l'inverse des valeurs de croissance qui sont plus faibles, avec souvent des ratios également un peu moins bons. Ça se retrouve dans la valorisation, parce que ce sont souvent des valorisations nettement inférieures à la moyenne du marché, et bien souvent par rapport même à certains secteurs qui sont à un certain niveau de valorisation, et ces entreprises value sont même inférieures à ce secteur. Alors elles ont un autre avantage, elles ont un avantage aussi quelquefois, hein, c'est-à-dire que cette sanction est assez forte, et elles se retrouvent avec des ratios de dividendes qui sont plus élevés que la moyenne. Donc on se retrouve comme ça avec effectivement toujours un peu quand même l'idée que c'est un peu... ça se comporte un peu mieux dans les périodes, on va dire, moyennement troublées. Dans les périodes de forte baisse, tout baisse, il ne faut pas se faire d'illusions.
Bon, vous allez rapidement donner quelques exemples, mais ce que j'aimerais que vous nous donniez vraiment concrètement comme conseil, c'est est-ce que c'est vraiment pertinent d'investir sur la value en ce moment si on pense que le marché va corriger?
Alors, très rapidement, quelques exemples. Souvent, en fait, les values appartiennent à des secteurs un peu moins sensibles aux fluctuations économiques. Donc, on se retrouve avec des bancaires, assez souvent, des valeurs liées à la consommation, également des valeurs type Orange, Saint-Gobain, etc., qui sont moins sensibles à l'environnement, mais qui, quand même, en bénéficient à un moment donné. Donc, voilà, ça, c'est souvent un peu sur le coup. Et les valeurs de croissance, là, on a des exemples typiques autour de la techno, hein, des Tesla, des Microsoft, des Netflix, etc., enfin, qui sont très visibles. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on voit. Alors, je dirais que par rapport à la problématique, est-ce qu'il est intéressant de revenir sur la value maintenant? Alors, si on est un investisseur très investi sur des valeurs américaines, je dirais oui. Pour un investisseur européen, c'est moins évident.
Bon, ça devient un petit peu compliqué. Et si on a un investisseur européen en Europe, on est qui? Enfin, vous voyez, expliquez-nous concrètement.
Alors, en fait, la raison, elle est simple. Hein, c'est qu'aux États-Unis, les valeurs de croissance ont vraiment des croissances nettement supérieures au reste du marché. Et on se retrouve souvent avec les valeurs Nasdaq. Et donc, on a comme ça un peloton de valeurs de croissance qui est très visible. Et on a des valeurs, à contrario, qui sont des valeurs dites value, qui ont également un comportement plus caractéristique de ce qu'est une value, c'est-à-dire des bancaires, des valeurs liées à la santé, etc., qui pourraient bénéficier d'une période un peu moins favorable sur les marchés boursiers. En Europe, c'est moins évident parce que tout simplement, on a moins de valeurs de croissance avec des croissances stratosphériques comme la techno, on a moins de valeurs de techno. Et puis, des valeurs value en Europe, finalement, ont des profils de croissance pas si mauvais que ça, vous voyez. Donc, on a comme ça un troupeau qui est un peu plus difficile à distinguer. Alors, je reprends ce que vous montriez tout à l'heure avec le PEA. C'est difficile de dire aujourd'hui commencer par de la value ou commencer par de la croissance. Oui. Moi, je dirais que aujourd'hui, il faut être assez équilibré, en fait. C'est-à-dire que, en particulier si vous êtes investisseur européen, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des croissances visibles. Et là, je pense que on peut les détecter soi-même, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas besoin d'énormément de connaissances boursières pour voir assez facilement ce qu'est une valeur de croissance. Il suffit de regarder les évolutions de chiffre d'affaires et de résultats, et c'est assez visible, c'est assez simple. Alors, ça se retrouve dans le prix, c'est plus cher.
Ouais.
Donc, on peut quand même se faire une sélection soi-même. Par contre, et là, moi, je pense que ça, c'est, j'ai vraiment un conseil à donner, la value, c'est quand même beaucoup plus complexe. Et il faut souvent avoir pas mal de types value pour attraper des valeurs qui vont rattraper leur retard à un moment donné. Et ça, c'est pas très accessible à des particuliers. Et je pense qu'il vaut mieux pour la value aller investir dans des fonds. Alors, on a la chance, et je reprends ce que vous disiez tout à l'heure sur le PEA, on a la chance en France d'avoir, moi j'ai en tête deux acteurs de sociétés de gestion qui ont d'excellentes références sur les fonds value. Je pense à Moneta et Indépendance AM qui ont des résultats sur la durée qui sont très intéressants. Et c'est très bien d'investir dans ce type de fonds, encore une fois, sur la durée, parce que ce sont des valeurs qui sont bien gérées. Et puis, de faire peut-être des choix personnels sur des valeurs de croissance, en n'oubliant pas ce que je disais au départ, c'est... En ce moment, faut y aller gentiment, je dirais. Faut investir très doucement. Et si vous avez du cash, faut même être un peu patient parce que je pense qu'il va y avoir des opportunités à un moment donné. Peut-être d'ailleurs en particulier sur les valeurs de croissance.
Prise de bénéfice si vous êtes investi. Patience si vous avez du cash. Merci beaucoup Alain Pitous pour cet éclairage. Sur cet éclairage, Alain Pitous, Senior Advisor ESG, avec nous un lundi sur deux, même à distance. Et je vous renvoie à un article de Julien Marion sur notre site web « L'Europe à la recherche de ses sept magnifiques » et l'ensemble des acronymes inventés par les différentes banques. Goldman Sachs avec ses granolas, Deutsche Bank avec ses Fabulous Five, ou encore, qu'est-ce que j'ai d'autre, la Soggen avec ses sept merveilles. Voilà. On vous éclaire, on trouve des acronymes, c'est la mode. Vous restez avec nous, notre contrariant arrive depuis la Suisse, Thomas Veillé. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business.
C'est lundi, notre contrariant.
Tout pour investir, le coach.
C'est lundi, notre contrariant suisse est parmi nous. Bonjour Thomas Veillé. Thomas Veillé, chroniqueur, rédacteur, youtubeur, et à retrouver sur le site investir.ch depuis la Suisse. Avec vous, vous nous dites ce matin qu'on n'a même plus le temps d'acheter au son du canon. Nous allons revenir sur cette guerre totale au Moyen-Orient qui finalement est assez rapidement classée sans suite par les marchés financiers. Quel est votre regard? Comment comprendre ce qui se passe? Et l'impact sur les indices boursiers de la montée, en flèche, des tensions entre Iran et Israël.
Bah écoutez, c'est vrai qu'on est assez surpris globalement parce que ça fait un moment qu'on attendait quand même, à un moment donné, une correction des marchés, qu'on attendait une hausse violente du pétrole. On avait vu techniquement que le baril était prêt à accélérer sans vouloir anticiper sur la géopolitique. On savait que c'était la grosse problématique qui pouvait nous arriver dessus. C'est arrivé. C'est vrai que c'est assez surprenant d'un point de vue géopolitique, justement, de se dire on a quand même deux pays majeurs de la région qui s'opposent depuis des années, qui aujourd'hui ont passé à une étape supérieure. Aujourd'hui, effectivement, on a eu l'impression que c'était plus les gens qui montraient leurs biceps pour dire « Regarde, moi j'ai des armes, regarde, moi je peux me défendre ». Et puis finalement, ça s'arrête là. Alors pour l'instant, ça s'arrête là. On ne sait pas si ça va s'arrêter là, bien sûr. Mais c'est vrai que du côté des marchés financiers, on a eu cette capacité impressionnante. Finalement, on a eu peur vendredi. On l'a bien senti sur les marchés américains, typiquement. Samedi, c'était le stress. On a eu l'impression que du moment où les Iraniens ont attaqué, il a fallu taper sur un truc qui était ouvert. Donc, on a tapé sur le Bitcoin, c'est ce truc qui était ouvert. Et puis finalement, on se retrouve lundi matin en se disant « Ah, ben c'est tout ». Bon, bah, on va monter, puis du coup, on va vendre le pétrole. Et donc, c'est un petit peu choquant, parce que je vous cache pas que pendant tout le week-end, je me suis posé des questions en disant, est-ce qu'il faut faire une vidéo sur l'explosion à venir du pétrole, les 100...
Thomas, on vous écoute, on vous entend un petit peu mal. Allez-y, on est connecté.
Pardon, on se retrouve... Oui, on se retrouve un peu coincé avec finalement un pétrole qui ne va pas dans la direction qu'on attendait.
Bon, un petit peu de culture financière. On utilise souvent cette expression « acheter au son du canon et vendre au son du clairon ». Bon, en gros, ça veut dire qu'on achète dès que la guerre commence et on commence à vendre quand les accords de paix sont sur le point d'être signés. Mais comme vous le soulignez ce matin dans votre newsletter quotidienne, il n'y a pas d'accord de paix possible entre Iran et Israël. Par définition, une sorte de pacte de non-agression qui est envisageable. Alors comment on applique cet adage boursier qui fait ses preuves, si on regarde l'histoire financière, dans le contexte 2024 de ce Moyen-Orient en tension et dans ce monde en bloc?
Bon, c'est vrai que si on regarde historiquement parlant, ça a toujours été le cas. Donc cet adage, il n'a pas été inventé n'importe où. Mm-hmm. Et c'est vrai que sur tous les conflits, les marchés se comportent comme ça. Maintenant, ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est que finalement, on a des marchés qui sont d'abord extrêmement forts et extrêmement résilients. Mm-hmm. Je lisais un article ce matin où des gens disaient justement ce qu'il faut envisager aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas assez de liquidités pour permettre aux gens de rentrer dans les marchés et d'acheter les actions qu'ils aimeraient pouvoir acheter. Donc du coup, il y a une espèce de soutien naturel qui se fait au marché. On l'a vu déjà sur ce qui s'est passé il y a deux ans, avec l'Ukraine et la Russie, ouais. Où finalement, ça a duré 3 semaines, 1 mois, et puis on a oublié le sujet. Et aujourd'hui, on est de nouveau là-dessus en se disant, bah oui, c'est dangereux. Effectivement, on sait très bien, moi je ne suis pas spécialiste de la région, mais on sait très bien qu'entre l'Iran et Israël, ça m'étonnerait qu'un jour ils fusionnent quand même, c'est peu probable. Donc du coup, il y a des tensions qui sont permanentes et qui aujourd'hui posent des questions. Donc aujourd'hui, que faire? Le marché est très fort. Le marché est très fort. Il y a plein de raisons qui justifient depuis pas mal de semaines des raisons de prendre des profits, mais ça veut pas baisser. Chaque fois qu'on a une correction de 1,5%, ça baisse pas. Ça rebondit directement derrière et on voit très bien de nouveau aujourd'hui. Donc il y a cet effet acheté sur faiblesse, le cas du fear of missing out, le FOMO, la peur de rater le train qui fait que ça continue à soutenir les marchés. Et c'est cette situation dans laquelle on est aujourd'hui qui finalement, pour l'instant, tant qu'on n'a pas... Alors si, je dis bien si, on avait eu un conflit qui aurait littéralement explosé et embrasé le Moyen-Orient, probablement que ça aurait baissé un peu plus et que l'histoire aurait été différente ce matin. Pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, tant qu'on reste comme ça, eh ben, la situation n'a pas changé. L'inflation, on s'en fiche complètement. On l'a vu la semaine dernière, on a même carrément changé la mentalité des marchés. Aujourd'hui, on ne regarde plus l'inflation et ce qui est le danger qui va avec. On est en train de se dire, oui, mais on va oublier l'inflation et on va se concentrer sur l'extrême croissance des marchés financiers et cette bonne santé, finalement, de l'économie américaine.
Vous nous parlez en fait de digestion, c'est-à-dire que les menaces géopolitiques de l'Iran, les attaques de drones, elles étaient déjà finalement digérées par le marché vendredi. Les indices américains qui ont largement corrigé en attendant eh bien, la réalité physique de ces bombardements. Et quelque part, bon, on voit le c'était digéré parce que le pétrole, même s'il est haut et s'il est passé au-dessus des 90 pour l'instant, est en dessous et puis se maintient. L'or, bon, flambe déjà et connaît des pics séance après séance depuis plusieurs semaines maintenant. Qu'est-ce que fait le Bitcoin, peut-être pour finir notre échange ce matin? Et qu'est-ce que le cours du Bitcoin dit de cette situation géopolitique?
Voilà. Moi, je ne suis pas un spécialiste du Bitcoin. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce de conviction généralisée qui dit que le Bitcoin va aller plus haut. Les raisons sont multiples et variées. On nous a dit plusieurs fois, le Bitcoin, c'est la valeur refuge qui va remplacer l'or. Et on a vu pourtant ce week-end que du moment où il a fallu taper sur quelque chose, comme je le disais avant, on a tapé sur le Bitcoin. Parce que c'était ouvert, je pense. Deuxième chose, il y a les ETF sur l'Ether, l'Ethereum qui vont être autorisés aussi. On peut supposer qu'il y a eu un petit peu de profiter de faire baisser les monnaies pour venir racheter derrière. On ne sait pas. On ne va pas être complotiste non plus là-dessus. Mais ça reste quelque chose où tout le monde est plutôt convaincu. Dans 5 jours, il y a le halving sur le Bitcoin. Donc, on va diminuer le nombre finalement de Bitcoin accessibles dans le futur. Résultat, ça devrait repartir à la hausse. C'est plutôt une saine correction à l'intérieur de tout ça. Mais bon, de nouveau, hein, si vous lisez la presse aujourd'hui, depuis le retour en grâce des crypto-monnaies depuis quelques mois, bah, tout le monde se dit, mais oui, mais c'est évident, le Bitcoin va aller à 100 000, probablement avant Noël cette fois. On parle tous de après le halving, et tout le monde est extrêmement bullish. Je ne parle même pas de Mme Katie Wood qui parle de 3,8 millions sur le Bitcoin. Par contre, je pense néanmoins qu'on a quand même dû penser à quelque chose. Enfin, moi, j'y ai pensé, en tout cas. Ce week-end, quand le Bitcoin a commencé à baisser, on s'est dit, si jamais, on part vraiment dans une grosse guerre assez violente qui pourrait s'étendre à plus loin que ça, il va y avoir forcément des problèmes d'électricité et d'énergie. Et le Bitcoin est quand même très lié à ce genre de choses. Donc, forcément, il y a peut-être aussi une réaction épidermique, pas forcément justifiée, mais qui a été aussi un peu déclenchée par ce genre de choses.
Et oui, le Bitcoin que vous avez pu suivre ce week-end, puisqu'on rappelle que la cotation elle a lieu 24 heures sur 24. Le Bitcoin le marché était ouvert ce week-end, si je peux dire, contrairement au marché européen et américain. Merci beaucoup, Thomas Veillet. Un petit mot sur un séminaire que vous organisez ce soir. Tenez, on vous fait un peu de pub. Racontez-nous.
C'est gentil. Ce soir, oui, dans le cadre de ma collaboration avec Swissquote en Suisse, on organise un séminaire qui se répète tous les mois, en fait, où finalement on permet aux gens de venir regarder comment on construit un portefeuille. Donc on a commencé le mois dernier et on continue ce soir à 18h et on va expliquer ce qu'on va mettre dans le portefeuille, pourquoi on le met et le suivre pendant les prochains mois. Et c'est gratuit, tout le monde peut s'inscrire sur le site de Swissquote en Suisse. C'est aussi autorisé aux étrangers parce que c'est aussi basé en Europe. Et donc vous pouvez vous trouver en tapant webinaire chez Swissquote.
Voilà, il n'y a pas de grande muraille de Chine internet entre nous et la Suisse. Merci Thomas Veillet, votre regard de l'équipe investir.ch à retrouver en podcast et en replay d'ici quelques minutes sur notre site web. Et je vous précise, le Bitcoin qui à l'heure où on se parle se négocie autour de 66 258 dollars. Vous restez avec nous, on marque une rapide publicité. On est un chouïa en retard, je vous présente mes excuses. Nous sommes au cœur d'une émission un petit peu perturbée par les problèmes techniques, mais l'équipe est au taquet pour pouvoir permettre à cette émission de se dérouler normalement. Après la pub, on va réfléchir à comment, quel thème surveiller alors que les publications trimestrielles démarrent. Quels thèmes vont surveiller les traders et les opérateurs de marché? Félix Baron va nous aider à y voir plus clair. A tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business.